Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Vous êtes sur Radio Kapi, il est très précisément 12h à Kinshasa, voici votre journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation ce vendredi après la prestation des serments des trois juges de la Cour constitutionnelle. En réaction, le FCC dit ne pas reconnaître ces trois juges de la Cour constitutionnelle et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Les États-Unis octroient 6 millions de dollars pour financer la destruction d'armes conventionnelles et la gestion des stocks d'armes en RDC. Ces nouvel appui porte à 36 millions de dollars la contribution de Washington pour améliorer la sécurité au pays. Notre invité, c'est le coordonnateur terrain de la riposte à l'épidémie d'Ebola. Le docteur John Kombe affirme que l'Équateur vient de passer 21 jours sans un nouveau cas confirmé de cette pandémie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, Diedone Nyangasa est sur les manettes. De la politique pour commencer. Ainsi que vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation ce vendredi. L'information est contenue dans un communiqué signé par son directeur de cabinet intérimaire. La communication du chef de l'État d'aujourd'hui intervient au lendemain de la prestation des serments des trois juges de la Cour constitutionnelle nouvellement nommés. Le communiqué de la présidence est muet cependant sur le contenu du message, mais il précise que le 54e conseil de ministres prévu aujourd'hui est reporté. En réaction, le Front commun pour le Congo dit ne pas reconnaître les trois juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle et ne se sentira pas lié aux actes qu'ils vont poser. Cette position du FCC a été rendue publique hier jeudi soir après la conférence des présidents de cette plateforme politique. D'autres précisions avec le rapporteur de la conférence des présidents du FCC, un extrait de la déclaration lue par Didas Pembe et choisi par Alain Irungmouchij.
Le FCC tient à réaffirmer que sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un état de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions de la République. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investi en lui.
Après la prestation de serment des trois juges, la Cour constitutionnelle est désormais complète et peut valablement siéger. C'est ce que pense en tout cas le député national Élisée Bokoumouana. Ce coordonnateur adjoint des forces politiques alliées de l'UDPS appelle la Haute Cour à se mettre rapidement au travail pour interpréter la conformité des lois. Il est au micro de Paul Matendo.
Aujourd'hui, nous sommes contents et nous sommes dans la joie par le fait que la Cour constitutionnelle va commencer maintenant à siéger. C'est parce qu'il ne pouvait pas siéger alors que le quorum n'était pas atteint. La Cour constitutionnelle donc est complète maintenant et ils vont se choisir leur président pour qu'il commence maintenant à interpréter la conformité de toutes les lois ou toutes les décisions concernant le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vous dis, FCC cache ou Lamuka, les députés, on était là, ils ne sont pas là pour respecter les mots d'ordre de ceci, de cela. Les représentants du peuple étaient bel et bien présents au sein de l'hémicycle des palais du.
Et puis dans le Kwilu, la plénière qui était prévue hier jeudi à l'Assemblée provinciale n'a pas eu lieu, le quorum n'ayant pas été atteint. Sur les 48 députés qui composent cet organe délibérant, 20 députés étaient présents. Des députés de l'opposition accusent le bureau de l'Assemblée provinciale d'avoir demandé aux autres députés provinciaux de sécher les plénières. Ils accusent en même temps le président Serge Makongo de ne pas laisser l'intérim à son adjoint. Ils annoncent des actions pour obtenir la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale. Leur déclaration est lue par le député provincial Claude Kumpel Mpassi.
Une assemblée provinciale comme celle du Kwilu, on se rend compte que les bureaux s'arrangent à pouvoir demander aux députés de sécher les plénières. Ça fait plus de 3 semaines qu'on est là. Depuis qu'il y a eu ouverture de la session, on ne s'est pas siégé puisqu'il y a des dilatoires orchestrés par le bureau. On se rend compte que c'est le bureau qui bloque le fonctionnement de la province. Raison pour laquelle nous estimons que nous devons user des droits pour voir comment créer la déchéance ou solliciter la déchéance de ces bureaux. Au besoin, par une déclaration de désaveu du bureau, nous allons et récolter les signatures pour faire partir les bureaux qu'on constitue notre équipe. Les bureaux bloquent du fait que, d'abord, le président ne veut pas que son vice fasse l'intérim. Ça, c'est en violation même du règlement intérieur de notre assemblée. Apparemment, si le président est absent, tout est aux arrêts. Il n'est pas l'institution assemblée du Kwilu, il est plutôt l'animateur de l'institution. S'il n'est pas là, les textes sont clairs, son vice est dans le droit de pouvoir assumer les affaires courantes et aussi tenir des plénières. On ne comprend pas par quelle magie on doit être pris en otage par un conglomérat de gens qui ne veulent pas que la province évolue.
En réaction à cette préoccupation, le porte-parole du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu parle des fausses allégations. Lupemba Mboma affirme que le bureau avait mis à la disposition de tous les députés de l'argent pour le transport afin de regagner le chef-lieu de la province pour le travail. On l'écoute.
C'est une déclaration non fondée, hein. C'est une fausse déclaration. On ne peut pas quand même dire de certains propos ou bien tenir certains propos qui ne sont pas corrects à l'égard du bureau. Le bureau avait mis à la disposition de tous les députés les frais de transport pour demander que chaque député soit du moins à Bandundouville pour commencer les travaux. Nous sommes là, il y a certains députés qui sont dans leur base jusqu'à présent, d'autres sont encore à Kinshasa. Ce n'est pas à nous les bureaux. Nous les bureaux, nous étions là. Et puis si nous avions donné cet ordre-là, comment se fait-il que dans la salle, il y ait les députés de l'FCC qui étaient là? Ils étaient au nombre de 10 et opposition, c'était aussi au nombre de 10. Ils allaient être plus que l'FCC. En réalité, c'est ça. Si réellement nous, FCC, avions donné cet ordre-là, l'opposition devrait être supérieure par rapport à l'FCC. Mais on constate qu'il y en a seulement 10 FCC, 10 oppositions. Donc c'est pas vrai.
C'est un dossier signé Irène Mboma. On enchaîne avec l'Ituri où 5 personnes dont 3 assaillants et un bouvier ont été tués lors des affrontements d'hier jeudi après-midi entre les FARDC et des miliciens de la CODECO. C'était dans les localités des Djoupi vers Nyamousolé et Zimbiliti, secteur de Bahema Sud en territoire d'Irumu au sud de la ville de Bounia. Selon des sources coutumières, ces rebelles de la CODECO ont pillé une centaine de vaches avant d'être repoussés par les FARDC. Cela a du créer une panique dans les quartiers de la périphérie de Bounia où des détonations d'armes étaient encore entendues. Le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est aux environs de 14h locales qu'un groupe d'une faction des groupes armés CODECO dénommé Armée de Libération du Congo, ALC, a attaqué un pâturage de Djoupi à moins de 15 km au sud de Bounia. Selon le chef de secteur de Bahema Sud, ces assaillants ont réussi à emporter une centaine de vaches. Katalo Takumara ajoute qu'un autre groupe d'assaillants a attaqué un autre pâturage au village Zambouti, un tiroir par balle, un bouvier. Alerté, les FARDC sont intervenus et il s'en est suivi un échange de tirs entre les deux parties pendant presque toute la journée aux environs de Mbogou, à 7 km de Bounia. Les porte-parole de FARDC à Ituri avancent un bilan des 4 assaillants neutralisés et 2 autres capturés. Il indique que l'armée a réussi à récupérer des vaches volées et qui ont été remises à leurs propriétaires. C'est vendredi matin, selon plusieurs sources, les assaillants de la CODECO ont investi de nouveau la localité de Mbogou. Le chef de secteur de Bahema Sud dit avoir déjà alerté l'armée. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le gouvernement américain annonce l'octroi de 6 millions de dollars de plus pour financer le programme de destruction d'armes conventionnelles et la gestion des stocks d'armes en RDC. Annonce faite dans un communiqué rendu public ce jeudi ici à Kinshasa. Ce nouvel appui porte à 36 millions de dollars américains la contribution de Washington pour améliorer la sécurité et la destruction des munitions non explosées en RDC depuis 2002. Le condensé de ce communiqué avec vous, Denise Lokesso.
Dans le cadre des partenariats privilégiés pour la paix et la prospérité, les États-Unis d'Amérique se disent être fiers de poursuivre ces partenariats avec le gouvernement de la RDC, a déclaré l'ambassadeur Mike Hammer. Cette nouvelle contribution des États-Unis s'appuie sur les partenariats existants avec les FRDC et la PNC en vue d'améliorer leur gestion d'armes et des stocks de munitions, poursuit le communiqué. Depuis 18 ans, les États-Unis œuvrent à la promotion de la stabilité et de la sécurité, en particulier dans l'est du Congo, grâce à des interventions humanitaires de déminage et en endiguant la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres. Les États-Unis ont amélioré la sécurité des 81 centres de stockage d'armes, assuré la destruction de plus de 1700 tonnes de munitions excédentaires et 180 000 armes de petits calibres excédentaires. Ces efforts ont permis concrètement, de sauver des vies et de protéger les individus contre d'éventuelles blessures, ajoute l'ambassadeur Hammer. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
La bataille pour l'indépendance économique se fera avec les femmes. Déclaration faite hier jeudi ici à Kinshasa par la ministre d'État du Genre, Famille et Enfants. C'était à l'occasion du lancement du projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole. Il s'agit d'un projet des trois zones économiques financé par la Banque africaine de développement BAD. Les propos de Madame Béatrice Lomea Atilité ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Les femmes congolaises ne dorment pas. Si vous avez effectivement soulevé le fait qu'à 1960, c'était l'indépendance politique, la bataille pour l'indépendance économique se fera avec les femmes. Et à ce sujet, permettez-moi de présenter mes hommages les plus déférents à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a dans sa vision exprimé le soutien total à l'épanouissement de la femme entrepreneure. En effet, les femmes congolaises, 52% de la population, et spécialement les femmes entrepreneurs, auxquelles s'ajoutent les femmes rurales, constituent un levier incontournable de l'économie nationale et du développement du pays, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la résilience au changement climatique.
Le projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole consiste en la connexion des femmes entrepreneurs en réseau pour leur autonomisation. Il est porté par le COMESA, la CEDEAO et la Communauté économique est-africaine. Le Kasaï oriental compte un seul barrage hydroélectrique, celui construit à Tchiala sur la Lubilanji dans le territoire de Katanda. Depuis sa construction, la puissance installée en électricité s'élevait à l'époque à 18 MW. Aujourd'hui, cette centrale ne produit que 3,2 MW. Comment remettre en état la centrale de Tchiala? La réponse dans ce reportage d'Esther Ndalafina.
Malgré son état de vétusté, la centrale hydroélectrique de Tchiala continue à produire de l'énergie électrique. Son barrage est géré par l'énergie du Kasaï, NRK, une filiale de la société minière de Bakwangamiba en sigle. Pour maintenir ce barrage en état, un service de maintenance y est organisé, comme le confirme Christophe Chilumba.
Nous travaillons avec les ateliers qui nous reconditionnent les pièces. Une fois que les pièces sont reconditionnées, nous les remplaçons, mais dans un temps réduit.
La grande difficulté réside dans le fait que l'acquisition de la quasi-totalité des pièces de rechange était jadis commandée dans le Haut-Katanga et en Belgique, ce que explique Paul Kalongi, DG de NRK. D'après Victor Kabongo, avec près de 470 000 dollars, toutes les machines de la centrale hydroélectrique peuvent être réhabilitées dans 4 mois, car le polygone à lui seul a besoin de 2,5 MW.
La
Là, nous avons estimé le coût. On remet les trois groupes en service et on remonte la disponibilité à 7 MW.
Lors des discussions avec les agents de la centrale, l'administrateur directeur général ad intérim de la MIBA a demandé l'état des besoins pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique, mais sans aucune promesse. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Libye, les parties en conflit ont signé aujourd'hui vendredi dans la matinée un cessez-le-feu après 5 jours de discussions à Genève, des discussions placées sous l'égide des Nations Unies. La mission d'appui de l'ONU affirme que ce compromis trouvé par les Libyens représente un tournant important et décisif vers la paix et la stabilité de ce pays longtemps déchiré par des dissensions. Un Italien de 52 ans a été interpellé aujourd'hui vendredi près de Strasbourg à la suite d'un mandat européen lancé par l'Allemagne, où il est soupçonné d'avoir commis 160 viols et agressions sexuelles. L'homme est soupçonné d'avoir violé ou abusé sexuellement des enfants. L'Allemagne a ouvert 122 enquêtes contre lui portant sur 160 faits rapportés. Du jamais vu aux États-Unis d'Amérique, plus de 17 millions de personnes ont déjà voté pour la présidentielle programmée pour le 3 novembre. Des chiffres plus importants qu'il y a 4 ans à la même période, selon l'Université de Floride qui compile déjà les données fournies par les autorités électorales du pays des différents États. Il pourrait présager d'un taux de participation record cette année.
L'invité.
Bonne nouvelle pour l'Équateur. La 11e épidémie de la maladie à virus Ebola vient de passer 21 jours sans nouveaux cas confirmés de cette maladie. Pour en parler, notre invité aujourd'hui, c'est le coordonnateur terrain de la riposte. Le docteur John Kombe parle de l'incidence que cela peut avoir dans la riposte. Il est interrogé par Paul-Richard Malengela.
Docteur John Kombe, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 21 octobre dernier, on a déjà accompli 21 jours sans nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola dans toutes les zones de santé qui ont été affectées. Alors, quelle signification, quelle implication cela peut-il avoir dans le processus même de la riposte ?
Comme tantôt vous le disiez, mais c'est en date du 28 septembre que nous avons eu le dernier confirmé. Cela est une nouvelle qui, pour nous, en soi, ça montre qu'il y a un travail qui a été fait et qui continue à se faire, parce que cette dernière confirmation, c'est dans la communauté qu'on a eu ce cas-là. Nous nous disons généralement que lorsqu'on compte 21 jours, la période d'incubation, et qu'on n'a pas d'autres confirmés, il faut à suffisance qu'on est en train de se rassurer pour se dire qu'il n'y a pas quelque chose dans la communauté. Bien sûr, 21 jours, ça c'est par rapport à la date de dernier confirmé. On a compté juste 21 jours qu'on n'a plus eu d'autres cas confirmés, mais il y a des principes par rapport au timing que nous devons respecter pour arriver à dire que voilà, nous pouvons déclarer la fin de l'épidémie.
Même s'il y a eu ce 21 cas, est-ce que cela veut également dire qu'il n'y a plus aucun cas qui soit pris en charge actuellement ?
Pour l'instant, nous pourrons vous rassurer que dans toutes nos structures de prise en charge Ebola, il n'y a pas de cas confirmés. Et cela remonte déjà depuis le 8 octobre qu'on a sorti et qu'on a réinséré notre confirmé et qui est sorti, qui a été déchargé, guéri en date du 8. Et cela, c'est dans la zone de santé de Makanza et plus précisément dans l'aire de santé de Lusengo.
Alors docteur, parce qu'on est déjà à 21 jours sans nouveau cas confirmé, quelles sont les conditions qui restent pour qu'on puisse déclarer la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola?
Le principe, c'est que avec l'expérience de la maladie qui a été vécue en Afrique de l'Ouest, les protocoles ont changé, parce que vous allez vous souvenir antérieurement, avec les épidémies antérieures, c'est que dès qu'on avait atteint le 2 fois 21 jours et qu'il n'y avait pas de cas, on pouvait facilement déclarer la fin de l'épidémie. Mais le principe, c'est que comme nous avions eu un vivant qui a été dans notre structure de prise en charge, c'est-à-dire les CTE, et on doit avoir 2 tests négatifs à intervalle de 48 heures, et c'est au lendemain du 2e test négatif que nous commençons notre décompte des 42 jours, c'est-à-dire 2 fois la période d'incubation. Et c'est lorsque nous aurons accompli notre période de 2 fois la période d'incubation que nous pourrons au lendemain déclarer la fin de l'épidémie. Et pour ça, on croise le doigt.
Seulement pour cette zone de santé de Makanza ou pour l'ensemble des zones de santé qui ont été affectées?
Le principe, c'est qu'on ne va pas isoler Makanza seul. Parce que vous allez vous rappeler que Makanza n'avait pas de cas, mais on a été surpris à Makanza. C'est dans toutes ces zones où nous devons maintenir la vigilance. Et comme l'épidémie a été déclarée pour l'Équateur et c'est le pays qui est en épidémie, je crois que l'autorité va faire de même. C'est pour toute la province de l'Équateur que la fin de l'épidémie sera déclarée. Pour ça, généralement, pour notre cas qu'on a eu à Makanza, plus précisément, je crois que notre décompte a commencé à partir du 7 octobre. On a commencé notre décompte de 42 jours. Donc, nous maintenons la vigilance pour que rien ne nous surprenne et que nous puissions avoir réellement les zéros que le labo nous donne ou les résultats négatifs que le labo nous donne, que ce soit réellement ces négatifs, parce que nous sommes en train de renforcer encore la surveillance, que ce soit dans la communauté et même dans nos formations sanitaires.
Mais dans l'entretemps, est-ce que les équipes qui sont sur le terrain sont-elles en train de faire, par exemple, des prélèvements ou encore des vaccinations ou bien d'autres activités liées à la riposte?
Absolument. Nous continuons à être dans cette période où nous sommes dans la période de réponse. Et notre période de réponse, lorsqu'elle va prendre fin, ça sera la période de 42 jours. Et tant que nous sommes en train de répondre, il y a des activités qui continuent. Toutes nos activités en rapport avec la réponse sont en train de continuer. Et en rapport avec la vaccination, peut-être que ça ne sera plus au tour de confirmer. Nous sommes en train de voir les personnels de première ligne. Et nous avons nos infirmiers, nous avons nos médecins, nous avons nos techniciens de surface, toutes ces catégories de personnes qui se retrouvent en première ligne. Il faut qu'on puisse les vacciner, qu'ils aient une certaine immunité, parce que c'est comme vous le savez, notre province de l'Équateur, son écosystème est favorable à l'éclosion de la maladie à virus Ebola. Pas seulement Ebola, il y a plusieurs autres maladies. Mais si seulement ceux-ci sont protégés aussi par rapport à Ebola, c'est quelque chose de bien qui va épargner cette catégorie de personnes derrière laquelle il y a plusieurs vies qui doivent être sauvées.
Quelles autres précautions ou conseils est-ce que vous lancez à la population?
Il faut qu'on reste vigilant. Toute personne qui tombe malade commence à l'être d'abord chez soi. Et si déjà au niveau de la communauté, on peut remonter cette information comme une alerte que j'ai mon frère qui est malade et peut-être l'orienter vers une structure de prise en charge, ça sera quelque chose d'intéressant et rien ne va nous échapper et même pas le pire. Et pour cela, il faudra que la communauté elle-même s'engage davantage. On l'a vu combien la communauté s'est engagée pour cette réponse et nous sommes en train de voir le résultat. Et nous voulons encore faire ce plaidoyer auprès de cette même communauté, qu'elle reste vigilante et qu'elle reste engagée pour que nous puissions réellement voir le bout du tunnel.
Docteur John Kombe, merci.
Merci.
Docteur John Kombe était l'invité de Radio Okapi. Il est le coordonnateur terrain de la riposte à Ebola. Il était interviewé pour nous par Paul Richard Malengela. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Irung Mouchi et Julien Nyamouenimona Chango qui m'ont accompagné.